Il avança doucement en elle, un enfant dans le palais de ses rêves, ouvrant une à une les portes. Et le corps de Françoise fut le prolongement du sien. Elle ne le caressait pas comme elle faisait d'habitude, le pressait seulement contre elle, et les bras de Jean, de même, la pressaient contre lui. Leur respiration emplissait la chambre. Il ne savait ni lui ni elle ce qui appartenait à l'un, à l'autre. Lorsque l'orgasme vint, pour la première fois, elle ne cria ni ne se débattit. Il ne ressentit pas cette bouffée d'orgueil qui d'ordinaire accompagnait chez lui l'acte de domination. Il leur parut qu'ils unissaient enfin les deux morceaux du fruit. Puis ils ouvrirent les yeux, la vie recommença, mais ils étaient toujours liés ensemble, un corps à quatre bras, à deux visages, et dès qu'ils eurent rouvert les yeux, le tressaillement du réveil fut un nouvel élan vers une fuite aussi peu différente de la première et aussi peu semblable qu'une vague de la vague qui l'a précédée. Quand elle dut se lever, elle se permit une plainte. « C'est difficile, tu sais. »« Oui, » dit-il. Mais il ne savait pas, car elle ne parlait pas de l'obligation physique de vaincre la paresse et l'abandon, mais de la peine qu'elle avait de ne rien garder de lui. Maman et Michou s'adorent. Sous la menace de la solitude, ils ont pris peur. Jean écrit « Mieux vaudrait qu'ils s'en abstiennent. » Dans ses lettres, où pas un mot ne fait allusion à Françoise, maman perçoit que son fils n'est plus le même. Elle le voit amoureux, prêt à toutes les folies. « Michou, devine le bonheur de papa là-bas, où il vit sans eux. » Juste au moment où l'un et l'autre, ils ont le plus grand besoin de lui. Maman a recommencé de sortir presque aussi souvent qu'autrefois. Elle continue de donner des conseils aux jeunes femmes et de rabrouer Rose. Elle regarde le monde et ne le reconnaît pas. Lorsqu'il lui faut écouter ce qu'on lui dit, afin de pouvoir y répondre, elle peine à essayer de comprendre et se met en colère parce que c'est fatigant. Alors, elle préfère ne pas écouter. Elle ne supporte plus la contradiction. Tolérer d'avoir tort quand la vieillesse est là, ce serait comme admettre qu'on a gâché sa vie. Et que vous resterait-il pour affronter la mort? Au contraire, il apparaît plus nettement lorsqu'on refuse d'entrer dans leur raison combien les gens sont sots et leurs croyances des niaiseries. On devrait, oui, parvenir à se persuader que tout ce que les gens croient, c'est de la niaiserie, que la mort n'existe pas, ou tout au moins n'existe pas comme le croient les gens, le bien, le mal, de même. La branche pourrie qu'est devenue maman voudrait mépriser ces histoires de fleurs et de fruits auxquelles les gens attachent tant d'importance. Elle serait heureuse, tout à fait, si sa tension était moins élevée, si son œil, droit ou son œil, gauche souvent, ne s'ensanglantait au matin. Elle suit un régime sévère et chaque semaine voit son médecin. Il ne l'ausculte même plus. Il dit qu'elle vivra centenaire si elle fait bien attention. C'est un bon médecin dont elle donne l'adresse à toutes ses amies. Elle ne se déshabille plus devant sa glace. Michou ne porte pas en lui des petites choses rouges, mais une sorte de dégoût latent et de la tristesse à revendre. Il est maintenant toujours fatigué. Il se rappelle avec nostalgie les performances de son jeune âge. Les petits gosses de sixième montent à la corde lisse ou à la perche mieux que lui. Il n'a pas envie de travailler ni de lire. Tout l'embête. Quand Georges Rombaud lui parle des ennemis et de la ville, Michou l'engueule. J'en ai assez de ces jeux de cons, fous-moi la paix avec ça. Il devient grossier depuis qu'il n'est plus rebelle. La hargne qu'entretient en lui le sentiment de sa lâcheté crève dans ses moindres mots. Même la bande à boulets le craint. Mais il a repris l'habitude perdue de s'asseoir sur les genoux de maman après le dîner et de faire câlin à son âge. Il joue à la barbichette « Je te tiens » ou à la main chaude. Il aime aussi que maman lui raconte des histoires de son enfance, lui répète les bons mots qu'il a dit, les exploits accomplis, la division à un chiffre que cependant il connaît par cœur. « Et alors, maman, qu'est-ce que j'ai répondu ?» Ils ne sont point dupes de la pauvreté de ses souvenirs, de ses jeux. Seulement, ils ont besoin d'être ensemble et de se consoler. Retrait dans la petite maison de leur tendresse. Ils gardent chacun pour soi ce qui leur tient à cœur. Le sang dans l'œil du matin, la chauve-souris, la branche pourrie, les choses qui ne sont pas rouges, la dame et Jean, au loin. Mais ils savent qu'ils taisent ce qui leur tient à cœur et se consolent surtout de ne pouvoir se le dire. Ça leur permet de vivre lentement, goutte à goutte, ou plutôt de tourner lentement autour de la vie, puisque la vie est entre deux, soleil, néant, mais brûlante ou glacée, infranchissable. Ça leur permet de savoir qu'ils peuvent s'appuyer l'un sur l'autre et de se préparer pour le retour de Jean à le garder, fils et père, cette fois de tout péril. Le visage de Françoise s'animait, s'élargissait. Une chaleur s'épanouissait à fleur de peau, à fleur de chair, qui n'était pas seulement une couleur nouvelle, mais aussi bien odeur, souffle, caresse. Il paraissait à Jean qu'il pouvait s'en nourrir, qu'il aurait pu en vivre. Peut-être lui-même changeait-il. Il ne se voyait pas, mais elle le lui disait. Nos visages ont pris leur plein emploi l'un pour l'autre. S'il avait pour elle des yeux d'écureuil, elle avait pour lui des yeux de noisette. Elle disait, sans se départir de cette claire ironie qu'il ne détestait plus, « Que tu es beau, tu rajeunis !» Il entrait dans le jeu. « J'ai toujours été beau. » Une moue le punissait. « Tu crois ? Ce n'est pas mon avis. Tu ressemblais à des tas d'hommes que je ne peux souffrir. Tu n'étais pas toi. »«
Alors, pourquoi m'as-tu aimé ?»
Il lui posa plusieurs fois la question avant qu'elle lui réponde et elle ne jouait plus. Par désir d'expérience, peut-être. Et devant le sursaut de Jean, pourquoi serais-tu le seul à faire des expériences? Pourquoi l'homme seul en aurait-il le droit? Si j'avais aimé mon mari, je n'aurais pas cherché ailleurs. Mais c'était une trop laide histoire. Il fallait qu'autre chose fût possible. Il ne la crut pas.
Elle me fait marcher.
Pourtant, elle était sérieuse et sincère. Mais il ne pouvait admettre de n'avoir été pour elle qu'un coup de dé, ce qu'elle avait été pour lui. Parce que le rire de Françoise, crispé, des premiers jours qui, infailliblement, l'éloignaient d'elle, s'était changé en un rire éclatant, auquel tout le visage, yeux, bouche, nez, participait. Parce qu'une incessante joie la métamorphosait, comme le coït les autres femmes, qui ne sont heureuses qu'en cet instant. Elle disait aussi « Tu me crées ». Et cela, il le voyait bien. Pourtant, il n'y croyait pas non plus. Il ne se sentait pas engagé dans cette création de son amour plus que dans la création de Michou, par exemple. Les arbres porteraient-ils leurs fruits sans le savoir? C'est possible. Françoise brillait aux yeux de Jean comme un soleil qu'on ne peut avoir la prétention de réchauffer. Ou bien cette lumière qui émanait de Françoise n'était-elle qu'un reflet pareil à ceux qu'il voit à la surface de l'étang ou aux poissons dans le ciel? Un reflet de quoi? Non seulement Françoise, mais toutes les choses lui échappaient. Il se connaissait enfin. Malgré ses ailes postiches, il n'était pas un ange, ni malgré sa vigueur, un amant accompli. Mais alors qu'il prenait conscience de sa pauvreté, un besoin l'agitait de renaître, de répondre à un appel, de tout sacrifier à l'exigence de se faire autre et d'égaler. Souffrant de cette tentation qu'il ne comprenait pas et qu'il n'admettait pas, il s'avisait d'en rendre Françoise responsable. Puis, il se reprochait ce reproche-là aussi. À d'autres moments, c'était le calme et l'étonnement que tout fut simple. Contrairement au programme que lui-même il s'était fixé, il laissa le poisson un jour, alors qu'il tentait une épreuve d'accélération, filer en ligne droite à 36 000 pieds d'altitude. Il ne savait pourquoi il agissait ainsi. Il n'y avait pas de raison. Mais ce fut ainsi, porté, conduit par l'appareil que, pour la première fois, sans le secours du piquet préalable, il franchit à l'horizontale le mur du son. La tour n'avait rien perçu. Il ne connut sa réussite qu'en voyant l'aiguille du mâchemètre sauter soudain à 1, quelque chose. Et même alors, il continua de voler sans avoir envie de redescendre. La paix qui l'envahissait, tentant de la définir plus tard, il l'imagina semblable à celle qu'il connaîtrait si Françoise, libre, acceptait de l'épouser. Ce même jour, à l'atterrissage, il dut poser le poisson sur le ventre. Le train refusait de se verrouiller en position basse. Les camarades accourus lui virent des yeux hallucinés. Il ne put rien leur expliquer. Il éprouvait l'impression d'avoir pénétré dans ce monde, haï des hommes pareils à lui, où la conscience est une manière de crime. Il n'aurait pu exprimer sa découverte si tant est que ce mot convint. Dans le rapport annexe au compte-rendu de vol auquel il travailla sans parvenir à en être satisfait, La révélation de la veille devenait un exposé naïf et sec. Les techniciens parlent toujours de la préparation des molécules d'air à la pression de l'avion, mais la réciproque était vraie. L'avion doit être préparé à la résistance que lui opposeront les molécules d'air non averties. L'équivalent de ce qu'est, pour le béton armé, la précontrainte. Il semblait que les techniciens, depuis longtemps, eussent fait dans ce sens tout ce qui leur était permis. La découverte de Jean consistait en ceci. Il se pouvait que la préparation fût d'ordre, non seulement matériel, mais moral. Les enregistrements pris durant le vol montraient une accélération continue, prétendument irréalisable. Le pilote, d'ordinaire, fuyait cette progression lente qui exigeait de lui un effort décuplé et qui, croyait-on, ne paye pas. Or, Jean n'avait pas eu la sensation d'une lutte surhumaine. Et les résultats parlaient. Jean médita le fait sans lui trouver d'explication. Il ne pouvait, dans un rapport, parler du moral d'un SC-101 sans risquer de passer pour un fou. D'autre part, il lui manquait l'éducation intellectuelle sans laquelle les données de l'expérience, techniquement utilisables, demeurent, pour l'inventeur lui-même, des lettres mortes. En fin de compte, Jean renonça à exprimer l'inexprimable. Il se contenta de parler du train d'atterrissage et de ce dérapage constant au passage du mur du son qui nécessitait qu'une fois encore, la dérive fût transformée. Puis, il s'intéressa à ses notes de frais, élément primordial de tout voyage à Istres. Son poisson, immobilisé pour au moins 15 jours, il prévoyait qu'il allait être rappelé dans les 48 heures. Malgré sa dépression et la période d'oisiveté qui avait suivi, son séjour durerait moitié moins que prévu. Il en ramenait des résultats qui surpassaient de beaucoup plus son attente. Ce dimanche-là, Françoise et lui descendirent sur la côte dans la voiture d'un camarade qui les abandonna aux portes de Toulon où ils empruntèrent l'autocar. Françoise voulait du sable, elle voulait que Jean la prît dans le sable après le bain. La crique où ils s'arrêtèrent, peu après Cavalière, était déserte en ce milieu de juin. Un bouquet de pins se dressait sur leur droite, au sommet d'une roche, la mer s'étalait loin devant eux, aussi apaisée, mais plus bleue qu'un lac. Le silence que rythmait, sans le détruire, le ressac des flots, apparaissait comme une transcription inhabituelle de la joie. Jean regardait Françoise, molle, détendue, aussi molle que le sable, plus blonde que jamais dans le sable blanc. Il n'était plus en rien l'homme divers et mietté aux mains de toutes les femmes, le joueur expert et vide qui se voulait toujours nouveau. Il en venait à douter d'avoir été cet homme.